micro Idrissa Sédoudia. Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique. C'est ce vendredi que doit maintenant arriver à Conakry la mission diplomatique de la CEDEAO après le coup d'état militaire de dimanche en Guinée, selon le ministre burkinabé des Affaires étrangères Alpha Barry. Elle sera composée des chefs de la diplomatie du Burkina, du Nigeria, du Ghana et du Togo, ainsi que du président de la commission de la CEDEAO, a indiqué hier à l'AFP M. Barry. Mercredi, il avait annoncé une mission de haut niveau pour ce jeudi en Guinée pour réévaluer la position de la CEDEAO qui a suspendu la Guinée de toutes ses instances de décision. Une source diplomatique burkinabé a justifié par des raisons organisationnelles le report à aujourd'hui de la visite. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a plaidé hier, lors d'un entretien avec l'AFP, en faveur d'un dialogue continu avec les talibans en Afghanistan, craignant par ailleurs un impact au Sahel du scénario survenu cet été dans ce pays. Il y a un vrai danger, des groupes terroristes au Sahel peuvent se sentir enthousiasmés par ce qui s'est passé en Afghanistan et avoir des ambitions au-delà de ce qu'ils pensaient il y a quelques mois, a-t-il jugé. Au Rwanda, un célèbre professeur d'université opposant au gouvernement, le docteur Christopher Kayumba, a été arrêté hier sur la base d'accusations de viol, a annoncé la police. Selon les enquêteurs, il a été arrêté à la suite d'accusations de plusieurs personnes, dont une ancienne élève de l'école de journalisme et de communication de l'Université du Rwanda à Kigali, où il a enseigné. Il avait nié des accusations de viol sur les réseaux sociaux. Les avocats d'Alex Saab, un proche du président vénézuélien Nicolas Maduro, accusé de blanchiment, ont dénoncé hier la décision de justice du Cap-Vert d'extrader mardi leur client vers les États-Unis, la qualifiant de suicide constitutionnel. Alex Saab avait été interpellé lors d'une étape technique de son avion au Cap-Vert en juin 2020. Le gouvernement éthiopien a affirmé hier que les rebelles tigréens ont été mis en déroute dans la région de l'Afar, où le conflit qui a débuté en novembre au Tigré s'est étendu ces derniers mois. Le porte-parole du TPLF, Getachew Reda, a contesté ces affirmations sur Twitter. La Côte d'Ivoire, 57 293 cas de COVID-19 et 488 décès, pourrait instaurer un pass sanitaire pour accéder notamment aux bars et aux restaurants en fonction de l'évolution future de l'épidémie, a annoncé hier la présidence à l'heure où le pays connaît une augmentation du nombre de cas de COVID-19. John Kengasong, chef de l'autorité sanitaire de l'Union africaine, a lui fustigé hier l'attitude des dirigeants mondiaux qui n'ont pas honoré leur promesse de partager les vaccins contre le COVID-19 avec les populations les plus pauvres au moment où l'Afrique fait face à une résurgence de la pandémie. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a rendu obligatoire la vaccination pour des millions de salariés des secteurs publics et privés. Michel Joseph nous donnera les détails. Par ailleurs, le district scolaire de Los Angeles, deuxième plus important des États-Unis, est allé jusqu'à décider hier d'imposer à tous les élèves âgés d'au moins 12 ans de se faire vacciner contre le COVID-19 s'ils souhaitent fréquenter un établissement public. Le président Joe Biden s'est entretenu hier avec son homologue chinois Xi Jinping, pour la première fois en 7 mois, pour tenter de faire en sorte que la concurrence entre leurs deux pays ne se transforme en conflit, a indiqué la Maison-Blanche. Un premier vol passager international a quitté Kaboul hier depuis le chaotique retrait américain fin août d'Afghanistan, où il faut maintenir un dialogue avec les talibans pour éviter des millions de morts, a dit le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Une semaine après la promesse du président Biden de défendre le droit à l'avortement aux États-Unis, son gouvernement a porté plainte contre le Texas pour obtenir le gel d'une loi qui interdit quasiment toutes les interruptions de grossesse dans cet État conservateur. La suite de nos informations, avec 80 millions d'Américains encore non vaccinés, soit 25% de la population, le président Joe Biden, confronté à une épidémie de COVID-19 qui n'en finit pas avec le variant Delta, a opté hier pour la manière forte. Il a rendu obligatoire la vaccination pour les 2/3 des travailleurs américains afin de tourner la page du coronavirus. Les détails avec Michel Joseph.
Monsieur Biden a signé un décret obligeant les fonctionnaires de l'exécutif à se faire vacciner sans possibilité de recourir à des tests réguliers sous peine de sanctions disciplinaires, selon la Maison-Blanche. Sont également concernés les salariés de sous-traitants d'agences fédérales, le personnel de maisons de retraite recevant des subventions fédérales, 17 millions de personnes, et les écoles placées sous le contrôle fédéral, écoles militaires ou tribales. Pour le secteur privé, le ministère du Travail va instaurer l'obligation de se faire vacciner ou d'effectuer un test de dépistage hebdomadaire pour les employés des entreprises de plus de 100 salariés, soit plus de 80 millions de personnes. Au total, les obligations de vaccins toucheront environ 100 millions d'Américains, soit 2/3 des travailleurs, a dit M. Biden lors d'une allocution.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari s'est rendu jeudi dans le sud-est du pays, région en proie à des tensions séparatistes. Les attaques contre la police se multiplient 2 mois après l'arrestation du leader pro-Biafra, Nnamdi Kanu. Les détails avec Eric Manirakiza.
Muhammadu Buhari s'est rendu à Oweri, la capitale de l'État d'Imo, quadrillé par un important dispositif sécuritaire pour inspecter les récents projets de construction avec le gouverneur local. S'il n'y a pas de route et qu'il n'y a pas de sécurité, que peuvent faire les gens? Absolument rien, a déclaré le chef de l'État, promettant une aide supplémentaire pour l'État. Avant sa visite, l'IPOB avait appelé les gens à rester chez eux et les entreprises à fermer en signe de protestation. Il y a 5 mois, des hommes armés ont attaqué la prison de Oweri, utilisant des explosifs pour libérer des centaines de prisonniers. Il s'agissait de la plus importante attaque dans le sud-est du pays, attribuée au mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra, IPOB, qui prône la création d'un État indépendant pour le peuple Igbo. Plus de 100 policiers ont été tués cette année, selon les autorités. La rhétorique séparatiste augmente à l'approche de l'élection présidentielle de 2023. L'IPOB rêve de voir renaître la défunte République du Biafra, dont la proclamation d'indépendance avait entraîné une guerre civile de 30 mois entre 1967 et 1970. Ce conflit a fait plus d'un million de morts, principalement des Igbo, tués par la famine et les maladies.
Au Cameroun, un collectif d'avocats a renoncé hier à défendre une centaine de militants du parti de l'opposant Maurice Kamto. Ils sont écroués depuis près d'un an et leurs avocats affirment ne plus être en mesure de faire leur travail. Le point avec Gini Nua Kapumbu Villa.
Dans une déclaration publique, le collectif des avocats à la défense de ses opposants invoque l'impossible accès à une justice équitable rendue par un tribunal impartial et indépendant. Pour leur part, les 124 opposants qui estiment être des otages politiques de M. Biya ont annoncé dans une déclaration commune avoir eux aussi décidé de ne plus se soumettre à une parodie de justice. 2 mois après leur interpellation, Amnesty International avait accusé le régime de Paul Biya de poursuivre une implacable répression des opposants caractérisée par des arrestations et détentions arbitraires. Le 22 septembre 2020, la police camerounaise avait violemment réprimé les marches pacifiques organisées par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, de Maurice Kamto et d'autres partis de l'opposition pour réclamer le départ du président Paul Biya, 88 ans et au pouvoir depuis près de 39 ans.
La Minute Éco, Rosine Mounézéro.
Le gouvernement camerounais entend augmenter la production nationale d'huile de palme de 71 000 tonnes, soit plus de 20% d'ici 2022. Cela grâce au projet de développement du palmier à huile et de l'EVA, dont la première session du comité de pilotage a eu lieu le 8 août à Yaoundé. Ce projet devrait permettre de réduire les importations d'huile de palme brute. Au Nigeria, le service douanier a annoncé la réception d'ici fin septembre de 3 scanners qui seront utilisés dans les ports d'Apapa et de Tinken Island dans l'état de Lagos et Solidon dans l'état de Rivers pour accélérer les procédures de récupération des marchandises. Les ports nigériens sont réputés être les plus congestionnés de la sous-région et même d'Afrique à cause des longs délais pour le dédouanement des marchandises. Le FMI apporte un soutien d'urgence à hauteur de 567,25 millions à la Tanzanie pour lutter contre le Covid-19. Les restrictions de voyage ont considérablement bouleversé le secteur touristique, dont la contribution directe au PIB était estimée à 4,3% en 2019. En 2020, l'économie tanzanienne a décéléré à une croissance de 1%, selon le dernier rapport du FMI sur les perspectives économiques africaines.
Merci Rosine. Et maintenant les sports avec Yakuba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Les matchs des tours préliminaires des Coupes africaines commencent ce vendredi. Deux rencontres à suivre en Ligue des Champions. Express de l'Ouganda, Almerek du Soudan et Amazulu de l'Afrique du Sud contre Big Ballet du Malawi. En Coupe CAF, Misiri des Comores reçoit les Rwandais de l'AS Kigali. Boumamourou du Burundi fait face au Diable Noir du Congo. Dikil de Djibouti accueille Biashara Mara United de la Tanzanie. Le coup d'état en Guinée a des répercussions sportives sur les clubs guinéens engagés dans ce tour préliminaire des Coupes africaines. La CAF a décidé que les trois rencontres impliquant des clubs guinéens dans les phases préliminaires se joueraient en une seule manche sur le territoire de l'adversaire. En conséquence, pour ce qui est de la Ligue des Champions, le CI Kamsar fera face aux Ghanéens Dat of Rock à Accra le 19 septembre. En Coupe CAF, Wakria jouera sa qualification en un seul match face à Djambar au stade Lat Dior de Thiès au Sénégal ce dimanche 12 septembre. Pareil pour Anglo Gold qui fera face au Nigérian de Bayelsa United FC à Yenegua le 19 septembre. En Égypte, le Portugais Carlos Queiroz est le nouveau sélectionneur des Pharaons. Il succède à Oussama Badri, limogé lundi par la Fédération égyptienne de football au lendemain d'un nul laborieux face au Gabon 1-1 en qualification pour le Mondial 2022. Badri, 61 ans, avait succédé en septembre 2019 au Mexicain Javier Aguirre, lui-même limogé après l'élimination des Pharaons en huitième de finale de la dernière CAN. Carlos Queiroz, qui était au chômage depuis début décembre 2020 et son départ de la sélection nationale de Colombie est attendu au Caire au début de la semaine prochaine. Athlétisme, et nous parlons de la Ligue de Diamants qui a eu lieu hier à Zurich en Suisse. L'Afrique s'en tire avec deux médailles au triple saut. Le Burkinabé Hugues Fabrice Zango, médaillé de bronze à Tokyo, a fini deuxième et remporte la médaille d'argent. Il a réalisé un saut de 17,20 m derrière le Portugais Pedro Picardo, qui a réalisé un bond de 17,70 m pour arracher la médaille d'or comme à Rio. L'Algérien Yasser Mohamed a terminé la troisième place et décroche la médaille de bronze. En Europe, un tribunal de Munich a condamné hier le nouveau défenseur de l'Olympique lyonnais, Jérôme Boateng, à 1,8 million d'euros d'amende pour des violences contre son ex-compagne et mère de ses deux enfants. Les magistrats l'ont reconnu coupable de coups et blessures après une journée d'audience. L'ancien défenseur international allemand et du Bayern Munich encourait une peine maximale de 5 ans de prison pour ses faits survenus pendant des vacances dans les Caraïbes en juillet 2018.
Merci Yakuba. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, notre confrère Moussa Aksar est de nouveau devant la justice. Le directeur de publication de l'événement Niger a été déféré devant un juge à Niamey qui lui a signifié les charges qui pesaient contre lui notamment la diffamation par voie de presse et, je cite, « diffusion de données de nature à troubler l'ordre public ». Le jugement est prévu le 4 octobre. Bagassi Koura a joint à Niamey maître Ahmed Maman, conseiller de Moussa Aksar.
Il y a quelques jours déjà, Moussa Aksar a partagé une publication de Global Initiative sur une affaire de drogue. Donc, c'est suite à cela, l'OCTRIS, donc c'est un office de police qui est chargé de gérer des questions de drogue au Niger, a porté plainte contre Moussa Aksar pour diffamation commise par voie de communication, donc notamment Facebook, et également diffusion des données de nature à troubler l'ordre public et à porter atteinte à la dignité humaine. Le dossier a été déféré devant le procureur et finalement le procureur l'a poursuivi en citation directe. Donc il est en liberté, mais il va comparaître devant le tribunal pour y être jugé le 4 octobre.
Est-ce que le juge a expliqué pourquoi poursuivre Moussa Aksar et non pas l'organisation qui a produit le rapport?
Bon, vous savez, selon les explications du procureur de la République qu'il a poursuivi, c'est que Moussa Aksar aurait dû vérifier l'information donnée par Global Initiative qui était à la base de cette publication avant de publier. Donc Moussa Aksar, bien naturellement, il a expliqué que, étant journaliste, sa seule obligation, c'est d'indiquer soit la source de la presse qui a publié, ou bien si c'était lui qui était l'auteur de la publication, de chercher à vérifier. Mais dans ce cas précis, lui, il a indiqué la source de cette information, il n'a pas à vérifier, et surtout au regard de la crédibilité de Global Initiative. Mais bon, malheureusement, le procureur n'a pas compris cela dans ce sens. Pour lui, c'est une faute pénale à laquelle il doit répondre devant le tribunal. Et malheureusement, c'est un coup dur pour la liberté de la presse.
Si on comprend bien la logique de la justice nigérienne, la presse au Niger n'a plus le droit de reprendre des rapports d'organisations, que ce soit Global Witness ou Amnesty International ou Human Rights Watch, tant qu'elle n'a pas vérifié.
Oui, en réalité, c'est ça le sens qu'ils veulent donner à cette affaire-là, parce que pour eux, pour le procureur de la République, les journalistes doivent d'abord vérifier, quelle qu'en soit la source, si c'est France 24, si c'est Voix Africa, et quelle qu'en soit la presse qui publie, un journaliste nigérien ne doit pas partager cela sur les réseaux sociaux avant de vérifier la véracité des faits publiés. Voilà pourquoi je vous dis que c'est difficile aujourd'hui d'exercer ce métier au Niger, à partir du moment où même pour des presses crédible, qui publie des informations, un journaliste n'a le droit de partager cette publication sans commettre une infraction pénale. Je pense que c'est quand même remettre en cause même la liberté de la presse qui est prévue noir sur blanc dans la Constitution nigérienne.
Joint à Niamey au Niger, maître Ahmed Maman, conseil de Moussa Aksar.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Les autorités camerounaises disent qu'elles tentent de retirer des milliers d'enfants travaillant dans les mines d'or le long de la frontière est du pays. Certains des enfants ont été déplacés de la République centrafricaine à cause de la violence et ont abandonné l'école pour extraire de l'or pour survivre. Reportage de Moki Edwin Kidzeka, le récit est de Gini Nua Kapumbu-Villa.
Les écoles ont rouvert au Cameroun lundi. Le ministère camerounais de l'éducation de base affirme que des milliers d'enfants ne sont pas retournés en classe dans les zones le long de la frontière avec la République centrafricaine. Le gouvernement dit que beaucoup d'enfants préfèrent travailler dans les mines d'or. Oberlin Dabumbelassa est le maire de Batouri, une ville frontalière.
Nous ne cessons de le dire aux parents. Il faut envoyer les enfants à l'école. Il faut laisser les enfants aller à l'école. Hein? Les chefs même sont mis à contribution. Il y a des journées où le chef, avec notre appui, fait le tour pour crier, pour dire à tout le monde, il faut laisser les enfants aller à l'école. Mais quand les parents ne suivent pas toujours, ça va être assez difficile. Mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour jouer le gendarme derrière tout ce monde?
Parmi les enfants qui ont refusé de quitter les sites miniers se trouve Joseph Goumba, 15 ans. Il dit avoir fui la République centrafricaine en janvier lorsque des rebelles ont attaqué la ville de Bossangoa pour protester contre la réélection du président Faustin Archange Touadéra. Depuis, selon lui, il dépend uniquement de l'extraction de l'or pour vivre.
Ma mère est là-bas, à Centrafrique, qui a perdu mon père ici au Cameroun. C'est moi qui ai fait ici. C'est mieux que je dois me débrouiller pour chercher ce que je dois manger. C'est ça qui, moi, je me débrouille pour trouver ce que je dois manger avec. Si on me prend en charge, je peux laisser le travail d'or, l'école est bien.
Le Cameroun dit qu'il y a plus de 400 sites miniers à sa frontière est, dont la majorité sont illégales. Corinne Vondo est une responsable syndicale du gouvernement à Batouri. Elle dit que le Cameroun va sanctionner les personnes qui empêchent les enfants d'aller à l'école.
Aller chercher les mines pendant que les autres sont à l'école, c'est le travail des enfants. La loi de 2011 sur le trafic et la traite des personnes, l'article 5 réprime effectivement toutes les personnes, y compris les parents, qui contraignent leurs enfants à ces activités de traite et de trafic.
La ville dans les mines d'or est dangereuse. Le gouvernement affirme que 27 mineurs sont morts en mai dernier à cause de glissements de terrain. Le Cameroun a promis d'offrir une scolarité gratuite aux enfants qui quittent les mines. Mais certains enfants disent qu'il leur manque de la nourriture et des livres. Et le gouvernement de Yaoundé n'a pas dit s'il fournirait ces choses si les enfants retournent à l'école.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La sélection officielle de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou est connue. 239 films sur 1132 enregistrés au total ont été sélectionnés par un comité professionnel. Pour sa première édition en tant que délégué général du festival, Moussa Alex Sawadougou a présenté cette 27e édition comme étant un festival de la résilience et une passerelle vers le futur. Au micro d'Arzuma Compaoré, Monsieur Sawadougou.
L'édition de cette année, c'est une édition de résilience. L'édition aussi qui va permettre aussi aux professionnels, permettre aux spectateurs, à tous les Burkinabés, à tous les Africains, de voir en fait que sur le continent, nous résistons malgré les difficultés que nous vivons. La création, elle continue. Le FESPACO, qui est créé il y a 50 ans, va toujours demeurer le FESPACO, c'est-à-dire avec cette ferveur populaire en fait dont adorent les spectateurs, bien sûr aussi les professionnels aussi, mais aussi, et c'est quand même justement dans cette transformation de progresser un FESPACO de son temps. C'est-à-dire tout simplement une passerelle, une vitrine de visibilité des nouvelles créations du continent et de la diaspora, une passerelle pour les aspirants du cinéma. C'est comme ça qu'on pourrait lier en fait l'artiste à l'économie afin que le FESPACO demeure un festival de son temps.
Alors nous savons que cette année, il y a un pays invité comme chaque édition. Dites-nous un peu comment s'est fait la sélection de ce pays et qu'est-ce que vous attendez organiser comme accueil à ce pays.
Nous sommes tous, disons, conscients de la politique cinématographique du Sénégal qui, depuis 10 ans, a permis justement, en moins de 10 ans, de pouvoir, disons, remporter 2 étalons du Yenenga et d'avoir des grands films qui sont au Grand Festival de Cannes. J'entends parler de Atlantique. Et ils ont aussi développé aussi une forme de coproduction entre les pays voisins, par exemple avec le Burkina Faso, avec la Côte d'Ivoire. Et ce modèle-là est quand même gagnant quand même pour le bonheur des cinéastes sénégalais et le bonheur aussi des cinéastes africains. Je pense que c'est tout cela en fait qui a permis aux autorités de choisir le Sénégal parce qu'ils sont un modèle et une locomotive aussi et qui pourrait inspirer d'autres pays.
Monsieur Sawadougou, c'est aussi votre tout premier festival, un challenge pour vous qui est un habitué. Quelle surprise vous nous réservez?
La surprise, je pense que j'ai déjà dévoilé la surprise, c'est justement, disons, toute cette forme de ce format d'organisation que nous avons mis en place, la mise en place d'un comité artistique pour le choix de films, le renforcement, disons, du côté professionnel, parce que l'une de nos missions, c'est de pouvoir ramener les professionnels au cœur de cet événement-là. Les catégories existantes déjà ont été renforcées par de nouvelles catégories, dont la section perspective, où l'espoir et talent, justement, va permettre à ces jeunes réalisateurs de pouvoir se confronter entre eux. Nous avons aussi justement cette section que nous appelons adorablement la section Burkina. C'est aussi de permettre aussi le cinéma burkinabé qui a fait le bonheur du continent africain et bien sûr aussi du Burkina Faso aussi, puisse retrouver sa place aussi dans ce concert de création cinématographique. Donc ce sont deux sections que nous adorons beaucoup et nous sommes très contents de le soir du 23 octobre, voir ce que cela va donner à nos publics, à nos professionnels.
Monsieur Sawadogo.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Les Américains commémorent ce samedi le 20e anniversaire de l'attentat du 11 septembre 2001 contre les tours jumelles à New York et le Pentagone, près d'ici à Washington, en Virginie. Parmi ceux qui ont vécu pleinement le déroulement de l'événement, il y avait, bien entendu, les journalistes. Claude Porcella était à l'époque chef du service francophone de la Voix de l'Amérique. Il raconte ici à Abdelrahman Dia comment il a vécu cet événement.
En fait, je n'étais pas à Washington. J'étais en vacances ce 11 septembre 2001. Et j'effectuais ma marche matinale avec mon épouse et on se trouvait dans le centre d'une petite ville balnéaire située dans le Delaware, Rehoboth Beach, où maintenant le président Biden a sa résidence secondaire. Et on a vu devant un magasin un petit groupe de personnes qui regardaient une télévision qui se trouvait à l'intérieur, une petite télévision en noir et blanc. Et alors on s'est approché et c'est à ce moment-là qu'on a réalisé, parce que la télévision montrait les premières images de la première attaque de l'avion qui s'est écrasé sur le World Trade Center. Et puis ensuite, il y a eu la seconde. Alors évidemment, immédiatement, je suis rentré à la maison. J'ai pris contact avec notre service à Washington. Et nous avons décidé que je resterai dans le Delaware afin de me concentrer uniquement sur les événements du 11 septembre.
Donc vous avez coupé court à vos vacances, hein?
Oui, tout à fait, oui. Mais je suis resté dans le Delaware et...
Alors, comment, sur le plan personnel, vous l'avez vécu? Comment est-ce que vous avez réagi entre le professionnel que vous étiez et qui devait faire son travail d'informer le public et la personne qui vit aux États-Unis?
Alors, écoutez, Dieu merci, j'ai été mobilisé évidemment pendant une bonne semaine sur cet événement. Ce qui m'a permis de ne pas réaliser pleinement ce qui s'était passé, ça n'est qu'après, une fois que les choses se sont un peu calmées, que j'ai réalisé l'ampleur et la signification de ces attaques. Et alors, très honnêtement, j'ai pleuré, voyez-vous. Mais avec l'adrénaline, j'ai pu fonctionner pendant une semaine.
Je vous pose la question parce que souvent, on a tendance à oublier que le journaliste, c'est aussi le professionnel, mais c'est aussi l'humain.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et bon, sur le plan humain, c'est évidemment une catastrophe. Hein. Les bureaux de la Voix de l'Amérique se trouvent tout près du Congrès. Or, le troisième avion, en principe, allait s'écraser soit sur le Congrès, soit sur la Maison-Blanche. Si ça avait été sur le Congrès, la Voix de l'Amérique en aurait ressenti les effets très, très sérieusement. Dieu merci, grâce au courage absolument admirable des passagers de l'avion qui ont attaqué les pirates, l'avion a été pu être détourné et s'est écrasé en Pennsylvanie.
Claude Porcella joint dans le Delaware.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez télécharger et partager l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.